Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Le 1er avril 1981, vers 23h30, pendant que la ville de Longueuil s'apprête à dormir, Roxane Luce, une jeune femme de 35 ans, reçoit 70 coups de bâton, dont plusieurs au visage. Cette tragédie est sur le point de laisser orphelin de mère un garçon de 13 ans, Stéphane, et sa sœur de 11 ans, Tania, une fillette handicapée.
Mais qui t'a fait ça? Donne-moi juste un prénom, soupir là. Shoot là, tu sais.
Je n'ai pas pleuré là, j'ai crié la mort.
Moi, je pensais que c'était une joke. Tu sais, le 1er avril. Ma mère faisait des jokes le 1er avril. T'es bonne là-dedans. Fait que je peut-être qu'elle veut faire un coup. Je pense que je m'appuyais là-dessus. J'espérais ça plutôt là, que.
Mais c'était pas une joke. Roxane Luce est retrouvée chez elle le 2 avril 1981 à 11h30. Elle est défigurée. Ses doigts sont fracturés à force d'avoir voulu se défendre. Son crâne est gravement atteint. 3 jours plus tard, elle meurt à l'hôpital. Épisode 1, le meurtre. Mon nom est Victoria Charlton et je suis YouTubeuse et autrice. Il y a quelques années, je suis tombée sur un fait divers qui concernait la mort suspecte d'une jeune femme dans un hôtel de Los Angeles. Comme plusieurs qui suivaient la nouvelle en même temps, j'étais complètement bouleversée. Du bouleversement, je suis passée à une sorte d'obsession. Aujourd'hui, je suis fascinée par tout ce qui a trait aux dossiers de disparition ou de meurtres irrésolus. J'en ai même fait mon métier. Le cas de Roxane Luce, ça me ramène au fait que les féminicides y font partie du paysage criminel depuis toujours. Il y a des femmes qui sont tuées depuis bien trop longtemps et ça s'arrête pas. À chaque fois, les dommages collatéraux sont bien réels, comme des enfants qui perdent leur mère, par exemple. C'est le cas de Stéphane Luce. Quand j'ai rencontré Stéphane, son histoire m'a touchée. Il avait 13 ans quand sa mère a été assassinée.
La journée avant le décès de ma mère, moi, j'étais à l'école. Moi, j'étais pensionnaire. Lundi matin, avant de partir pour l'école, une petite chicane qui est arrivée, puis j'ai bouté. Puis elle m'a dit, « Passe une belle semaine, Steph, je t'aime. » J'ai dit, « Ben ouais, c'est ça. » Je suis parti. C'est la dernière fois que j'ai vu ma mère, ça. Le 1er avril, j'étais pensionnaire, puis j'avais des gros mots de vente. L'école tentait de joindre ma mère. Ils l'ont pas rejoint. Fait qu'ils ont téléphoné au travail à ma mère. Puis on dit, non, il est pas ici le matin. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est le patron qui a appelé la mère. Donc, ma grand-mère, ben, elle dit, ah, ça se pose d'être au travail. Elle dit, je vais envoyer mon fils voir. Fait que son frère est allé voir à la maison. Puis la porte est entrouverte en avant quand il est arrivé.
Jean-Pierre Henry, le frère de Roxane, il tombe sur une scène d'horreur. La chambre est tachée de sang, il y en a du plancher au plafond et la jeune mère de famille est dans son lit, en position fœtale, immobile. Et là, Jean-Pierre, il est convaincu que sa sœur est morte. Il quitte en vitesse le logement de la rue Saint-Thomas et il se rend directement au poste de police de Longueuil.
Il s'est ramassé au poste de police en disant « Ma sœur est morte, quelqu'un l'a tuée. » Fait qu'ils sont arrivés là. Comme si c'était pour être un meurtre. Finalement, ils se sont rendus compte qu'elle était encore vivante.
Roxane est découverte chez elle 12 heures après son agression. Elle respire encore. Ça relève presque du miracle. À l'hôpital, on la plonge dans le coma. Le 3 avril, à 18h40, son cœur cesse de battre. L'équipe des soins intensifs réussit à la réanimer. Puis le lendemain, Roxane Luce est déclarée en état de mort cérébrale. Il faut prendre une décision.
On m'a dit, ton oncle va venir te chercher. Là, je trouvais ça drôle. Mon oncle va venir me chercher, OK. Fait que là, il vient me chercher avec ma tante, puis il commence à me dire, ben ta mère a été battue. Fait qu'elle est à l'hôpital. Dans ma tête, à moi, c'était comme, elle mangeait un coup, là. Elle mangeait un coup de poing. Tu sais, parce que moi, je me faisais souvent dire par des amis, je vais te battre, tu sais, puis j'avais juste des coups de poing, finalement. Tu sais, fait que c'était la même chose, tu sais, le même raisonnement. Par contre, je regardais ma grand-mère qui pleurait beaucoup. Je regardais mes tantes qui pleuraient beaucoup. Je regardais mes oncles qui me disaient « Inquiète-toi pas, on va s'en sortir. » Puis dans ma tête, à moi, c'était évident qu'elle s'en sortirait. Là. Pourquoi tu me dis ça? Là, c'est le samedi matin, il n'y a plus personne qui me disait qu'elle s'en sortirait, puis ça pleurait plus.
La décision de débrancher Roxane a été prise par la famille le samedi 4 avril 1981 à 15h30. À partir de là, pendant 2 ans, le jeune Stéphane y est convaincu qu'il va recevoir un appel de sa mère qui va lui dire que c'est une blague. Pendant 2 ans, à chaque fois qu'il rentre l'école, il demande à son père s'il a reçu un appel.
À un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été au poste de police 2 ans plus tard. J'ai dû voir les photos. Là. Puis ils m'ont dit, OK, tiens, garde-toi. Puis je ne sais pas regarder. J'ai dit, OK, mais bon. C'est de même que ça s'est réglé dans ma tête. J'avais 15 ans.
C'est donc clair que Roxane a été assassinée. Et 40 ans plus tard, le coupable court toujours. Je suis pas enquêtrice, mais je crois beaucoup en la force de la communication. À la fin du mois de septembre 2022, un Américain a été libéré après 23 ans de prison grâce au podcast Serial. L'adolescent de 17 ans avait été accusé en 1999 du meurtre de sa copine. Pendant 23 ans, Adnan Syed a clamé son innocence. Et quand le podcast Serial s'est intéressé à son cas, c'est des dizaines de milliers d'auditeurs qui se sont mis à enquêter. Grâce à leurs recherches, 2 suspects ont été retrouvés, dont un violeur en série. Quand Syed est sorti libre du tribunal, il a été acclamé par une foule d'auditeurs du podcast. Donc, ma quête à moi, c'est que la force des podcasts qui sont produits ici puisse avoir le même genre d'impact. Donc, qu'on puisse aider les familles à obtenir des réponses sur des cas de meurtre ou de disparition. Puis pour revenir au cas de Roxane, je me pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, en 2022, le tueur soit toujours en liberté? Puis là, je me demande s'il n'y aurait pas un lien avec la manière que la scène de crime a été investiguée au 2075 de la rue Saint-Thomas à Longueuil. Rappelez-vous qu'on est en 1981. Les méthodes sont bien différentes de celles pratiquées aujourd'hui. Alerté par Jean-Pierre Henry, il y a 2 policiers qui arrivent sur les lieux. Très vite, ils appellent les ambulanciers, les enquêteurs et les techniciens en scène de crime. Il y a des policiers qui sont ordonnés de vérifier le périmètre extérieur et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent pourquoi le frère de Roxane s'est déplacé au poste de police plutôt que d'appeler depuis l'appartement. Dehors, le fil de téléphone est sectionné. Mais c'est pas tout. En agrandissant le périmètre, les policiers trouvent un bâton enroulé dans un sac de plastique noir qui est fixé par du ruban électrique. Sur le bâton, il y a du sang et des cheveux. Mais pendant ce temps-là, moi, ce que je trouve vraiment difficile à comprendre, c'est que l'équipe fouille l'appartement visiblement sans précaution. Selon les dires de Stéphane, il y a des empreintes de toutes sortes qui s'ajoutent tant sur la victime que sur les meubles, sur les murs et sur les cordes de porte. Toujours selon ses dires, il y a des traces qui s'imprègnent sur le plancher, il y a les cheveux de tout le monde qui tombent par terre et il y a certains indices qui auraient pu être très précieux qui sont souillés. Mais les techniciens ils réussissent quand même à repartir avec des indices qui amènent au laboratoire. En attendant les résultats des analyses, les enquêteurs interrogent Thomas Luce, le père des enfants de Roxane.
Mon père venait nous chercher l'entendre seule fois par mois. Il était toujours là pour nous autres. Il a aidé au niveau des dépenses, là, hein, l'école, la linge, ces choses-là. Même que je me souviens que la dernière fin de semaine que j'ai passée avec ma mère, mon père était avec nous. On avait été voir ma sœur au centre pour handicapés où est-ce qu'elle était, à Saint-Jean. Puis je voyais que c'était la belle camaraderie. Même dans ma tête, je me disais, mon, pourquoi qu'ils sont pas ensemble, tu sais? Ils se sourient, puis ils sont polis, puis ils se chicanent pas, puis...
Le mariage entre Roxane et Thomas Luce dure 5 ans. Et 10 ans après leur divorce, Roxane est tuée. Tout de suite, son ex-mari est considéré comme le principal suspect. 2 semaines après avoir fait sa déclaration, une rencontre qui a duré 4 heures, Thomas est appelé à son travail et on l'invite à revenir au poste. Là, les enquêteurs cherchent à le faire avouer en échange d'une peine plus clémente. Mais l'ex-mari, il tient son bout. Il a tué personne. Il finit par être relâché. En plus de ça, son alibi est béton. Thomas Luce travaillait de soir chez Pratt & Whitney.
Là, la famille m'a dit, Stéphane, où est-ce que tu veux aller rester? Fait qu'on m'a offert. Ma grand-mère m'a dit, tu peux venir chez nous. Une maison qui m'a dit « Tu peux venir chez nous. » Puis là, mon père m'a dit « Tu peux venir chez nous aussi. » Fait que là, je suis allé rester chez mon père là, à partir de là. Mais je me suis quand même fait petit. T'sais, puis je voulais pas déranger.
Stéphane, il voulait pas déranger. Et il aimait pas que les regards soient posés sur lui non plus. Au funérailles, on lui demande quelque chose qui passe pas. Il trouve qu'on lui impose une genre de mise en scène et que l'événement est complaisant.
Tu sais, moi, ma mère, elle voulait pas de fleurs. Puis on m'a donné une rose et déposé sur le cercueil. Ça a pas passé, ça. Ben, elle a déposé ça là-dessus, c'est... Puis tout le monde me regarde, tu sais. Je trouve ça dur.
Plus tard, pendant qu'il est assis à l'avant d'une Cadillac noire, la voiture qui va les mener au cimetière, Stéphane entend les pleurs de sa tante et de sa grand-mère qui sont toutes deux installées à l'arrière.
Je n'ai pas pleuré la mort de ma mère. J'ai crié la mort de ma mère.
J'imagine que c'est peut-être pour en arriver à pleurer cette perte immense que Stéphane, même 40 ans plus tard, il cherche encore celui qui lui a arraché sa mère. Quand il a compris la réelle définition du mot meurtre, il n'a plus jamais été capable de se l'enlever de la tête.
La colère, j'ai toujours été capable de camoufler. Jusqu'à temps qu'on me choque. Puis si je me choquais à l'école, les images du meurtre revenaient. C'était dangereux.
Pourtant, Stéphane n'a jamais vu les photos du corps de sa mère. Est-ce que tu les as déjà vues, les photos?
Non. Moi, je pense à les voir.
Ah ouais.
J'y pense. Ça fait 40 ans, puis j'y pense.
Pourquoi?
Pour me donner notre boost.
mais il y a quand même des souvenirs qui restent très frais dans sa mémoire. Et de recoller les morceaux, bien, ça permet de refaire la scène et d'y voir une sorte de chronologie. Les enquêteurs disent que Roxane aurait ouvert à un ancien amant ou à un homme qu'elle connaissait. Mais selon Stéphane, c'est impossible puisque Roxane est rentrée à 23h15 et que l'agression est survenue à 23h30. La jeune mère de famille aurait pas eu le temps de rentrer, faire sa toilette du soir, se coucher, puis se relever pour ouvrir. D'ailleurs, la voisine a commencé à entendre des bruits à 23h30, mais elle croyait que Roxane faisait l'amour, donc elle n'a pas alerté la police. Donc, si Roxane n'a pas ouvert à son assassin, ça voudrait dire qu'il était déjà dans la maison. Au quatrième jour, quand Roxane est décédée, c'est les enquêteurs Daniel Gagnon et Michel Viau qui ont commencé les interrogatoires. Comme la procédure l'indique, ils ont débuté par les proches de la victime. Après avoir écarté l'ex-mari, les enquêteurs ont cherché un ancien amant que Roxane appelait Maurice Chantal. L'homme a été retrouvé grâce à une photo découverte chez Roxane. Et sur la photo, on peut le voir qui est adossé sur le coffre arrière de sa voiture. Et on peut apercevoir les trois derniers chiffres de sa plaque d'immatriculation. Et ce sont ces chiffres qui ont permis de retrouver Dominique Tanguay, alias Maurice Chantal. Quand Stéphane m'a parlé de ce gars-là, j'avoue avoir été prise de court. Un ancien amant qui a changé de nom. C'est pas exactement le profil de quelqu'un qui a rien à se reprocher.
Maurice Chantal l'a interviewé, puis c'est là, dans l'interview, qu'il disait ben, c'est elle qui voulait que je m'appelle de même. Mais finalement, il y avait une femme, lui.
OK, c'est pour ça que...
Probablement pour ça que lui a changé son nom, ouais. Qu'il a fait à croire que c'est ma mère qui voulait ça, pour pas qu'elle puisse se retracer, qu'elle dise à sa femme.
Ouais.
C'est ce que je pense, mais encore là, cet individu-là... Je peux pas le cerner en tant que tel. J'ai jamais réussi à y reparler. J'ai essayé une couple de fois, mais ça n'a pas fonctionné.
Après leur rupture, Dominique Tanguay harcelait Roxane. Il la suivait partout. Il suivait même Stéphane, qui, à quelques reprises, il a été obligé d'emprunter différents chemins pour semer Tanguay.
J'aurais aimé essayer de poser la question directement. Parce qu'il dit qu'il ne la harcelait pas. Moi, il me suivait. Là. J'ai même une photo de lui pendant qu'il me suit.
Mmh.
J'avais ma caméra, je n'ai pas la photo. Montré. Je l'ai montré, c'est ça que je donnais à la police. Là, ils ont vu le modèle d'auto qu'il y avait, puis c'est le même qu'ils l'ont retrouvé. Là.
OK. Mais les enquêteurs n'ont pas été plus loin. J'ai beaucoup de misère à comprendre comment ce type-là n'a pas attiré plus l'attention des policiers. Tu sais, il faut le faire. Là. Traquer le fils de ton ex sans révéler ta vraie identité.
Peut-être que c'est juste quelqu'un qui l'aimait puis qui décrochait pas simplement, puis qu'il y a rien à voir là-dedans, peut-être aussi. Tu sais, je veux dire, c'est bien embêtant. Il a tellement pas été considéré, ce suspect-là, que je peux même pas compter sur la police aujourd'hui pour investiguer un peu plus, même si j'en reparle. Mais oui, ça pourrait être un suspect potentiel. Là.
Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série Balado de Cube Radio et du bureau d'enquête. Pure vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
Par pure vengeance est en nomination en tant que meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022.
J'ai rencontré, de 72 à 81, trois conjoints. Son dernier chum, lui, ça faisait peut-être 2-3 ans qu'il était ensemble. J'ai en tête 1977, 78 peut-être. Là.
Roxane, c'était une femme indépendante. Elle n'a plus jamais réhabité avec un homme après son mariage. Elle voyait ses amoureux en semaine et eux la visitaient le week-end quand Stéphane rentrait du collège. Et c'est comme ça que Stéphane a rencontré Steven, qui a fait partie de sa vie pendant un moment.
Mais ça, c'était un homme qui était quand même calme. Il parlait juste anglais. Il n'avait pas l'air à m'aimer. J'étais comme, bon, j'étais fatiguant peut-être. Mais je pense que j'étais juste là, puis il aurait aimé ça être tout seul. C'est plus ça le problème là, quand j'y repense avec le recul d'aujourd'hui.
Comme bien les amoureux, Steven voulait passer un maximum de temps avec la femme qu'il aimait. Peut-être que les enfants le gênaient, mais la petite famille partait quand même souvent la fin de semaine, en camping par exemple. Même la petite Tania, lourdement handicapée, faisait partie des expéditions. Roxane était dans la mi-trentaine. C'était une maman de deux enfants. C'était une femme magnifique, ambitieuse, engagée, libre. Elle croyait en la réincarnation et au retour du balancier. À son fils, elle inculquait le respect d'autrui, la gentillesse, la générosité, et elle encourageait à bien faire, à en faire plus. Même si Stéphane n'était qu'un jeune adolescent, sa mère le revalorisait en lui donnant le rôle de l'homme de la maison, le protecteur, le grand, le fort, et Stéphane endossait ses responsabilités avec bonheur. Et comme une majorité d'êtres humains, Roxane, elle espérait partager sa vie, trouver un partenaire avec qui former une équipe. J'imagine que, belle comme elle était, à 35 ans, elle attirait les regards.
Son chum, Steven, c'est lui qui a montré la photo. Ce gars-là était photographe. Quand je rentrais chez eux, il n'y avait que du stock de photographie. Son salon ressemblait à un laboratoire de photos, sa chambre ressemblait à un laboratoire de photos, tout ressemblait, il y avait du stock de photos partout.
Roxane est devenue passionnée de photographie. C'est une passion qu'elle a d'ailleurs transmise à son fils. Ensemble, ils partaient à pied dans la ville et passaient des heures à capturer des images qu'ils développaient le soir dans la chambre noire qui s'était installée. Durant 3 jours, les enquêteurs espéraient que Roxane sorte de son coma pour lui demander le nom de son agresseur. Et pendant ce temps-là, le jeune Stéphane n'avait même pas accès à sa mère. On lui interdisait de rentrer à l'hôpital.
Entre toi et moi, il aurait pu faire une exception, mais étant donné qu'elle était maganée, que j'avais 13 ans, c'est peut-être une bonne chose que je n'y ai pas été. Mais j'ai toujours comme... Dans ma tête, ça a fait comme... Si elle m'avait entendu, peut-être qu'elle aurait réagi. Tu sais, mais qui t'a fait ça? Donne-moi juste un prénom, soupire-le, là. Shoot-le, tu sais...
Mais malheureusement, Roxane s'est jamais réveillée. Et comme dans plusieurs affaires de meurtre, ben les suspects potentiels sont nombreux. L'autopsie révèle que Roxane n'a subi aucune agression sexuelle et que le meurtrier s'est acharné sur son visage. Est-ce qu'il voulait briser sa beauté? L'effacer pour toujours. Est-ce qu'il s'agit d'une autre victime de cet amour qui haït? Est-ce que le crime passionnel existe ou est-ce que c'est un crime sexiste? Est-ce qu'on peut aimer tellement fort au point de préférer voir l'autre mourir plutôt que le regarder vivre sans nous? Toutes des questions encore sans réponse et le temps passe.
Moi, j'ai des doutes, mais moi, je suis à la recherche de la vérité, pas d'un coupable.
Les enquêteurs ont poursuivi leurs recherches. Et après avoir questionné la famille, ils se sont tournés vers les circuits d'autobus et de taxis qu'empruntait Roxane. Ils sont tombés sur un chauffeur d'autobus qu'il aurait fréquenté seulement quelques jours. Malheureusement, encore une fois, la piste mène nulle part. Là, on est dans une impasse. Son fils Stéphane, son ex-mari Thomas et toute la famille restent sans réponse. Le dossier est classé en décembre 1982. Mais Stéphane n'oublie pas. Il reste avec le meurtre de sa mère dans la tête. Et ça, à tous les jours. Donc, si on récapitule, Roxane ne subit aucune agression sexuelle, il n'y a personne à la connaissance de sa famille qui lui voulait du mal et il n'y a rien dans l'appartement qui semble avoir été volé. Sauf une chose. Une boîte de négatifs photo. Roxane et Stéphane regroupaient les négatifs de leurs photos dans un cartable. Ce cartable-là, c'est 3 ans dans la vie de Stéphane. Donc, beaucoup de précieuses photos de sa mère.
Moi, j'ai fait de la photo avec elle le dimanche, avant que ça se passe. Je suis parti à l'école le lundi, ça s'est passé le mardi, retrouvé le mercredi, décédé le samedi. Dans la semaine suivante, j'étais allé chercher du linge et tout ça dans ma chambre. J'ai réussi à avoir mon chat, mon hamster. Puis, je cherchais les photos. Pas de photos.
Comme Stéphane et sa mère ont fait de la photo 2 jours avant le meurtre et qui ont confiné les négatifs dans le cartable, Stéphane est absolument certain qu'ils étaient chez lui. Il aurait donc disparu. Stéphane pose la question à la police. La police confirme avoir pris des boîtes de photos, mais n'avoir jamais vu de boîte de négatifs.
C'est, finalement, c'est ni la police ni la famille, personne qui a ça. Ben là, j'ai mentionné à la police, j'ai dit « il y a eu vol ». Je veux dire, ma mère s'est fait assassiner, puis négatif.
En parlant à Stéphane, j'ai compris que c'est de là que tout part. Il s'est juré de trouver qui avait tué sa mère le jour où il s'est rendu compte que des négatifs photos avaient été volés. Ça a été comme le véritable coup d'envoi. Le moment très précis où il s'est donné la mission de comprendre.
En fait, les négatifs noirs et blancs que ma mère avait, là, c'est l'élément déclencheur. Là, la disparition de ces négatifs-là, c'est l'élément déclencheur de ma quête de vérité dans ce dossier-là.
Quand Stéphane me racontait ça, évidemment que j'ai trouvé ça un peu étrange. Parce que peut-être que c'était le souvenir d'un petit gars qui se rappelle mal de certains détails. Ou peut-être que quelqu'un a réellement volé les négatifs de photos. Et si c'est le cas, moi je me pose la question. C'est qui que ça aurait pu intéresser?
J'ai rencontré, de 72 à 81, 3 conjoints. Son chum, Steven, c'est lui qui a montré la photo. Ça faisait peut-être 2-3 ans qu'ils étaient ensemble. Elle l'aurait laissé, puis il n'aurait pas accepté ça. Ma mère, c'est une belle femme. Puis quand ma mère disait « décidait de quoi », elle décidait de quoi. Il n'y aurait pas de « revenez-y ». Je sais qu'il l'aimait. Il avait l'air de l'aimer quand même beaucoup. Là. J'ai toujours trouvé qu'il était colleux là, sur ma mère. Ma mère était plus indépendante. Fait que si elle a décidé, à un moment donné, elle dit « non, enough is enough, là. You stay home », mais là, ça, il n'aurait peut-être pas pris ça, là.
La relation entre Roxane et Steven dure plusieurs mois, voire 2 ou 3 ans. Puis vers la fin, Steven commence à consommer un peu d'alcool. Rien d'énorme, mais assez pour que son caractère change. Il serait devenu psychologiquement violent. Puis ça, Roxane le tolère pas.
Ma mère, c'était une femme qui avait quand même une certaine fierté. Puis probablement qu'elle n'a pas aimé le fait qu'ils prennent de la boisson régulièrement, parce que c'était pas quelque chose qu'ils faisaient au début. Je me souviens qu'il y avait pas de bière à la maison au début, puis à la fin, il y en avait régulièrement. Fait que c'est peut-être quelque chose qui tapait sur une nerf.
Roxane a donc averti son fils qu'elle allait quitter Steven, et elle le prépare parce que sa décision est prise. Le lendemain de l'agression, Steven est au travail. Il prend aucune nouvelle de son ancienne amoureuse et questionne même pas les enquêteurs quand il apprend sa mort aux nouvelles. 2 ans après le meurtre, Stéphane décide de se rendre chez Steven. Par curiosité, mais c'est surtout parce qu'il sait que les policiers le soupçonnent.
Faut dire que la première fois que j'étais le voir, la première fois que j'étais le voir, c'était en 83. J'avais 14 ans, puis j'étais avec un de mes amis, puis j'ai dit, je vais aller voir le gars qui aurait tué ma mère. Voilà comment est-ce qu'il est, tu sais, ce qu'il fait. Puis quand je suis arrivé là, ben je parlais pas plus anglais, fait que la conversation était comme à zéro. Mais il y avait plus de stock de photos dans son appartement. C'était juste du stock d'armée. Du sac de couchage, des walkie-talkie, toutes sortes d'affaires d'armée. J'ai dit, mon Dieu, OK, c'est plus le même gars partout. Puis il avait les cheveux courts, puis il avait plus de barbe, puis tu sais, il avait une brosse. T'as pas méconnaissable.
Mais ses réponses sèment un doute dans la tête de Stéphane, qui a pris connaissance du dossier d'enquête des années plus tard. Steven mentionne que ses passe-temps sont la soudure et le body de char. Mais selon Stéphane, Steven, ben, il n'y a pas de voiture et il n'y a pas de garage. Quand les policiers veulent savoir comment il s'est fait la blessure qu'il a sur la main, Steven répond qu'il s'est éraflé sur le ciment en allant dans son cabanon chercher une moustiquaire. Mais toujours selon Stéphane, Steven, il n'y a pas de cabanon. Et à la question « Que faisiez-vous ce soir-là? » Steven y répond qu'il se faisait cuire des patates seul chez lui. Si c'était pas assez, Steven refuse de passer le test du polygraphe. Ces informations-là, Stéphane les obtient en 1997. Et à ce moment-là, il vient tout juste de retourner voir Steven, qui est toujours l'un des suspects dans la mire des policiers.
Ce qui m'a marqué, c'est qu'il m'a dit « Ça fait 16 ans que j'attends que tu viennes me voir. » Moi, j'ai répondu « Ça fait 16 ans qu'on me dit que tu as tué ma mère.
Oh. »
Fait que j'avais pas le goût de te voir.
Ben oui. Donc, si on résume le tout, Steven, c'est le dernier amoureux de Roxane. Puis avant sa mort, ils venaient tout juste de séparer. Dans les derniers temps, Steven avait commencé à prendre l'alcool. Son comportement changeait et il était de plus en plus agressif. Quand le jeune Stéphane de 14 ans décide enfin de frapper à la porte de son ex-beau-père, il remarque que non seulement il s'est physiquement métamorphosé, mais qu'en plus, tout le matériel photo qui envahissait son appartement avait disparu, remplacé par de l'équipement de l'armée. Dans son interrogatoire, Steven aurait menti sur certains aspects de son quotidien, puis n'est pas capable de fournir d'alibi solide. Et finalement, plus tard, ben il refuse de passer le test du polygraphe. Par contre, ben sans preuve claire, on reste encore dans la présomption d'innocence. Visiblement, ce que les policiers ont ramené comme indice le 2 avril 1981, ça n'a pas été assez suffisant comme preuve pour inculper qui que ce soit. Ou bien, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ces indices-là pour qu'ils puissent jamais être utilisés? En fait, ce que je vais me rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments étranges dans ce dossier-là.
Ma mère, elle croyait beaucoup à la loi du retour. Là, puis, je me disais, ouais, c'est quand même étrange.
Stéphane détient la date de naissance de Steven. Aujourd'hui, il aurait 71 ans. Est-ce qu'il est toujours vivant? Et si oui, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il a fait dans les 40 dernières années? Stéphane pense qu'il serait encore en vie et qu'il serait même encore à Montréal. À la recherche et au scénario, Véronique Marcotte. Dominique Plante à la musique, design sonore et montage. Pascal Hugo Caron-Quentin à la réalisation. Le tout est une production du Studio SF et de la société de production Cube Radio. Je suis votre animatrice Victoria Charlton et rendez-vous au prochain épisode pour la suite de cette histoire.